Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis Pénaud, spécialiste de la lutte contre la fraude, et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple: vous immuniser contre la fraude. Bonjour à tous. Pour nous aider à nous immuniser contre la fraude, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, toujours à distance, Madame Céline Camacho, qui va nous parler de ses expériences multiples de tentatives de fraude au président. Bonjour Céline.
Bonjour.
Alors Céline, vous êtes responsable comptable et à l'époque des faits, vous travailliez dans le groupe de promotion immobilière Etica. Vous y aviez mis en place un processus de validation complet des virements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passait précisément ?
Alors, la proposition de paiement a été générée par le logiciel de comptabilité. Le comptable ou le responsable comptable va faire une première signature. Donc là, c'est à partir d'une clé physique USB qu'on appelle un certificat.
Ouais, un certificat numérique.
Voilà. Voilà. Il va faire une première signature du virement. Et ensuite, ce virement signé devra être validé par le dernier valideur. On avait la validation du secrétaire général qui était la seule personne habilitée à faire fonctionner le compte avec le président, évidemment. Et c'est lui avec son certificat, bien sûr, personnel, qui pouvait déclencher réellement le paiement.
Mais ça passait systématiquement par lui, donc c'est un peu contraignant parce que ça demande beaucoup de temps à valider. Mais c'était le garde-fou incontournable dans cette organisation-là. Donc voilà, en termes d'outils, vous aviez bordé le fonctionnement. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter les tentatives de fraude que vous avez vécues et comment cet outil-là a permis de les déjouer ?
Oui, alors juste pour terminer, donc à partir du moment où on a mis en place cet outil-là, on a coupé, parce que il faut vraiment penser à faire les deux en même temps, on a coupé, on a appelé tous nos partenaires bancaires et on a coupé toutes les possibilités de générer des virements bancaires via tout ce qui existait sur les sites internet des banques.
Ouais, très bien. Effectivement, c'est une précision qui est importante. Je vous avez raison de le souligner parce que c'est bien de mettre des cadenas et des serrures trois points ou des portes blindées, mais si vous laissez les fenêtres ouvertes, ça sert
exactement
à rien.
Exactement, très belle image, Denis.
Merci.
C'est tout à fait ça.
Alors comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez une ou deux, ou peut-être chaque tentative de fraude se fonctionnait de la même manière ? Peut-être il y en a une qui ressort dans le lot que vous pourriez nous raconter ?
Alors, il y en a deux vraiment qui m'avaient marqué. Donc nous, ça n'a jamais fonctionné. Hein. C'est pas allé jusqu'au bout, aussi pour les raisons indiquées précédemment, mais c'est même pas allé jusqu'à l'émission d'une proposition de paiement. Donc bon, ça veut dire qu'on avait des...
Ah, c'est intéressant. L'outil qui était là pour vous valider, enfin pour sécuriser, finalement, il n'a même pas eu besoin de remplir son rôle parce que vous aviez identifié la fraude avant. Ah, c'est intéressant. Alors, on vous écoute attentivement.
Donc, sur la première dont je me souviens, c'était Alors, ça s'est toujours passé par téléphone. La première fois, une personne a appelé une des personnes de l'équipe, donc évidemment en comptabilité. La personne, en fait, s'est vraiment fait passer, là, pour le coup, pour le président du groupe. Et la personne qui a reçu l'appel téléphonique était quelqu'un qui était là depuis longtemps dans le groupe, donc il connaissait bien le président. Et la personne a été suffisamment persuasive et connaissait suffisamment de détails pour lui mettre un doute. Alors sur la voix, elle avait un petit doute, mais des fois avec les téléphones en voiture, le son...
Ouais, ça peut déformer un petit peu, donc on garde un doute sur la voix. C'est pas forcément un critère décisif.
Mais par rapport au déjà il y avait le prénom dans ce qui était dit, il y avait des choses qui semblaient fonctionner et elle avait réellement un doute. Quand on a échangé, alors moi j'étais en rendez-vous ce jour-là, mais quand je suis rentrée, la façon dont elle a présenté cet appel, on voyait bien qu'il y avait un vrai doute, quoi. Et la personne lui a dit, en gros, j'ai quelque chose à vous demander, je peux pas vous en parler pour l'instant, mais je vais vous rappeler, c'est important, je vais vous demander de faire une opération bancaire, ça va être urgent, je vous tiens au courant, est-ce qu'il y a de l'argent sur les comptes?
Donc là, ça veut dire que, excusez-moi, je vous fais juste un tout petit temps d'arrêt, ça veut dire que, un, le fraudeur connaît le prénom de la comptable.
Oui.
Et commence par un premier appel qui dit qui anticipe finalement le suivant qui sera vraiment la demande de réaliser l'opération.
Le suivant ou celui d'après.
Il peut y avoir plusieurs appels, un truc. Ouais, ce qu'on retrouve, alors, dont on a parlé dans l'épisode précédent de la séance précédente de fraudologie, c'était vraiment cette notion d'urgence dans la fraude au président où on fait une première attaque et ensuite on répète plusieurs appels qui vont mener jusqu'à cette mise sous influence et puis la réalisation de l'opération. Oui. Donc là, on est vraiment dans ce même schéma, quoi.
C'était, je pense, le plan. Effectivement, de la personne. Ouais. Et son premier appel, donc l'objet, c'était de savoir s'il y avait de l'argent sur le compte. Et là où je dis qu'il y avait quand même, je pense, un vrai doute dans l'esprit de ma collègue à l'époque, c'est qu'elle lui a répondu. On va dire, bah oui, bah, non, bah, ça devrait être bon, ça va en ce moment, quoi. Enfin, voilà, enfin, quelque chose comme ça, quoi.
Ah, donc elle a été vigilante. Enfin, elle avait un doute, mais pas un doute suffisant pour lui cacher cette information-là. D'accord.
Et donc c'est après échange en disant, oh, j'ai eu un appel là, je suis pas sûre, il est où notre président, etc. Enfin, et bon, en échangeant comme ça, là tout d'un coup, je pense que les choses se sont éclaircies en disant, mais non, mais c'est bizarre tout ça. Enfin, voilà, bon, donc et finalement.
Là, elle en parle avec vous,
c'est avec. Oui, vous enfin, avec une autre collègue. Ouais, puis après on arrive là-dessus, on était tous sur le même lieu, hein, donc voilà.
Ouais, ça c'est enfin moi je trouve ça génial de d'identifier que finalement on arrive à lever le doute en ne restant pas seul et en discutant avec ses collègues et c'est comme ça qu'on lève ce doute et qu'on identifie que non, c'est pas une situation normale.
Alors pour ça, il faut deux choses, il faut avoir sensibilisé les équipes avant, ça c'est extrêmement important, mais vraiment très
indispensable.
Et aussi mais ça c'est beaucoup plus difficile à comment dire à, enfin c'est plus subjectif, c'est instiller une confiance et un état d'esprit suffisamment souple et ouvert pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise de dire ça. Parce que quelque part, je pense qu'il pouvait aussi avoir un doute en se disant merde, je lui ai dit qu'il y avait de l'argent sur le compte, est-ce que j'ai bien fait? Bon, finalement, c'était pas si grave, il n'y avait pas d'informations très importantes de donner à ce moment-là. Bon, voilà.
Non, bien sûr. Mais vous avez raison, la sensibilisation, c'est indispensable. Alors, ce serait intéressant que vous nous disiez comment vous aviez sensibilisé les équipes ou comment elles avaient été peut-être sensibilisées par quelqu'un d'autre. Et je suis complètement d'accord avec vous. Instaurer un état d'esprit de confiance où les gens n'ont pas peur de se tourner vers leurs collègues. Il n'y a pas de concurrence ou il n'y a pas de tension qui pourrait finalement rendre les gens très seuls devant ce genre de situation parce que elles n'ont pas envie ou elles ont peur ou elles hésitent avant d'aller voir quelqu'un d'autre.
Oui, complètement. Ça je pense que
donc c'est deux piliers
les services dans lesquels il y a eu il y a pas très longtemps moi par rapport à votre question comment on fait pour informer les équipes, on a eu chez Etica, on avait régulièrement des alertes de la part de nos partenaires banquiers qui nous envoyaient des extraits de presse ou même des mails qui nous disaient voilà, on a encore eu tel cas, voilà comment ça s'est passé. Nous donc c'est ce type d'informations, on les transfère à l'équipe et puis quand on a des réunions d'équipe régulièrement, comme c'était le cas, on met ça à l'ordre du jour, comme ça, on fait pas 3 heures dessus, mais on parle pendant 5-10 minutes en disant, vous avez vu le mec que vous envoyez.
On entretient le truc régulièrement.
Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on faisait souvent, et notamment, on répétait très souvent, parce qu'il peut y avoir aussi, penser au turnover qu'il peut y avoir dans les équipes, donc à répéter les choses, de dire, attention, les changements de RIB. Pour les fournisseurs. Alors là, c'est plus l'arnaque au président, mais ça, c'est partie des choses. On l'a répété.
C'est l'arnaque au faux fournisseur. Ah ouais, ouais, ça c'est un truc qui se développe
beaucoup.
Donc
voilà, bien penser à appeler derrière sans utiliser le numéro de téléphone qui est en bas du mail, mais en allant chercher le numéro de téléphone du fournisseur pour avoir une confirmation que c'est bien un changement de RIB, éventuellement redemander un courrier. Enfin bon, voilà, si en fonction des situations, être très vigilant là-dessus. Donc bon, c'est vraiment des choses qu'on a répété beaucoup parce que ça arrive ça régulièrement dans la vie d'une entreprise. Les fournisseurs changent de
réseau. Ah, mais complètement. Bah, je partage. Je peux être que d'accord avec ça. C'est quelque chose que je promeux volontiers. C'est voilà, d'anticiper, de sensibiliser, mais régulièrement. Il ne s'agit pas de faire une réunion un jour où on informe. C'est vraiment quelque chose qui doit être récurrent. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ça doit être hyper
régulier.
Alors,
parfois, ça sert un peu. On radote et on répète, etc. Mais je pense que c'est vraiment très, très important ce type de rappel. Ouais. Mais voilà, en tout cas, pour revenir aussi à l'arnaque au président, c'est aussi comme ça qu'on a expliqué que c'était pour de vrai et que ça arrivait dans la vraie vie, ce genre de choses, jusqu'au jour où, effectivement, vous avez ce genre d'appel. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui sur lequel je serais extrêmement vigilante, en tout cas dans les conseils que je pourrais donner, c'est sur l'organisation des services comptables. Je m'explique. Il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé sur un site d'une agence de recrutement qui est une agence de recrutement plutôt dynamique, plutôt fun, qui accorde beaucoup d'importance à sa communication, etc. En baladant sur ce site, on trouve très rapidement pas un organigramme, mais en tout cas quelque chose qui ressemble à un organigramme fonctionnel de tous les services, y compris les services comptables. De manière à communiquer, c'est une façon de communiquer en disant, vous voyez, chez nous, tous les services sont importants.
Bien sûr, ça rend l'entreprise humaine, accessible.
Mais on a aussi tous les prénoms, tous les noms, toutes les tâches quasiment, enfin j'exagère, hein, ça va pas jusque là, mais en tout cas, c'est vraiment un cadeau qu'on peut donner à quelqu'un qui veut faire ce genre de choses, parce que là, ah ben oui, je connais bien Trucmuche à la compta, ou même, enfin voilà, c'est vraiment, alors moi je pense que les services financiers devraient vraiment être sanctuarisés, quoi, par rapport à cette communication.
Protéger
et de, alors, et puis l'expliquer en interne, parce que c'est vrai que les services comptabilité ont toujours un peu l'impression d'être mis de côté, d'être la dernière roue du carrosse, etc., même en matière de communication. Donc c'est
on parle pas d'eux, c'est pas très valorisant, effectivement,
mais ça peut être expliqué, et au contraire, ça peut aussi d'ailleurs être une façon de valoriser l'importance du service en disant
absolument, c'est absolument, ça dépend vraiment du discours qu'on tient.
Voilà.
Oui,
bon, c'était une petite parenthèse.
Donc, alors, on en parlait là aussi dans l'épisode précédent sur la communication. Alors, c'est difficile, hein, de ne pas communiquer. Il faut pas ne pas communiquer. Il faut juste être vigilant, effectivement, en fonction de la taille des équipes, en fonction de la capacité des équipes aussi à résister, entre guillemets, à ce type d'attaque, à accepter d'être caché. Enfin, il y a tellement de critères qui font qu'on va décider ou pas d'être très transparent dans sa communication et de donner des noms, des prénoms, qu'il faut vraiment se poser la question pour chaque entreprise et chaque cas. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Votre position, on a bien compris, c'était de plutôt sanctuariser ces équipes-là pour les protéger tout en leur expliquant pourquoi elles sont un peu masquées. Mais c'est vrai qu'il y a plein de
choses. Ça valorise quand même aussi l'importance des tâches effectuées. Donc, c'est pas...
Complètement, bien sûr. Ce qu'on met dans un coffre-fort en général, c'est pas une baguette de pain, quoi.
Oh, mais qu'est-ce que vous êtes fort en image.
Donc, je suis inspiré aujourd'hui.
Est-ce que vous voulez que je vous présente le deuxième cas?
Ouais, s'il vous plaît.
Donc le deuxième cas, c'était pareil, ça a commencé par un appel téléphonique. Donc une autre collègue qui était un peu mon bras droit à l'époque.
D'accord. Donc quelqu'un qui a des habilitations assez importantes, quoi.
On peut dire que la personne qui était visée était plutôt la bonne personne. En revanche, elle n'est pas tombée dans le panneau, donc voilà. Au final, c'est pareil, très vite. Alors en plus, on était vraiment sur des bureaux l'une en face de l'autre, donc la communication se faisait vraiment très rapidement et très facilement. Fluide, donc ouais. À peine raccrochée, elle me dit oula, je crois qu'il y a un truc louche. Voilà, donc on en a parlé aussitôt et la personne avait dit là également. Alors là, pour le coup, c'était pas une arnaque au président direct, c'était la personne se faisait passer pour un avocat d'affaires.
Ouais, et, c'est un grand classique aussi.
Qui était mandaté par le président du groupe et qui avait besoin d'effectuer une opération extrêmement confidentielle et que le président lui avait dit qu'il avait vraiment confiance en cette personne-là et qu'il fallait vraiment que ça reste confidentiel, etc. Donc là, on est vraiment sur le truc basique. Hein,
ah, ça coche toutes les cases.
Voilà,
ça coche toutes les cases.
Et qu'il allait rappeler. Donc,
pareil, premier appel qui anticipe un deuxième dans lequel on en remet une couche. Là encore, ce qu'on retient, enfin, ce que si je peux me permettre, c'est que, un, c'est la bonne personne qui est contactée, et deux, finalement, on arrive à déjouer la tentative en deux phases. Un, je suis la personne qui suis appelée. Je suis suffisamment sensibilisé pour trouver sa louche, et tout de suite après, je valide ça en échangeant avec la collègue que j'ai en face de moi ou à côté de moi, là où le collègue d'ailleurs, évidemment, mais je reste pas seul pour décider si oui ou non c'est une fraude et oui ou non je vais plus loin. Donc je suis sensible et deux, je suis pas tout seul.
Oui, ça c'est vraiment la clé. Mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile en fait à
oui, assurer. Parce que c'est ce qui demande le plus d'entretien. Oui. Et puis, comme vous disiez, il y a beaucoup de turnover dans les équipes, surtout si c'est des équipes nombreuses. Donc c'est quelque chose qu'il faut. Et comme toutes les entreprises font pas cette démarche-là, il y a plein de raisons pour ne pas le faire, malheureusement. Mais les gens qui arrivent dans une entreprise n'ont pas forcément eu cette sensibilisation dans leur poste précédent, ou alors c'est leur premier poste. Et donc, c'est la responsabilité de l'entreprise à chaque fois qu'elle accueille une nouvelle personne de la sensibiliser et ensuite d'entretenir cette sensibilisation. Mais c'est un investissement et il faut avoir conscience de l'importance que ça a. Et encore une fois, là, l'exemple est hyper frappant. C'est qu'il y a des outils qui sont en place, qui sont solides, qui sont fiables, qui ont demandé du temps et de l'argent. Sauf que ils ont même pas eu besoin d'être mis en jeu parce que tout le travail avant avait été bien fait sur la partie humaine.
En tout cas, les gens étaient suffisamment à l'aise et suffisamment en confiance pour parler librement. Mais effectivement, on peut très bien trouver. Après, on peut très bien se retrouver sans faire de psychologie de comptoir face à quelqu'un qui se sent pas bien dans son entreprise, qui se sent pas valorisé, qui a besoin de. On sait très bien ça. On peut très bien tomber sur quelqu'un un peu.
Ah, fragile, vous aviez dit la première fois quoi. Ouais, la fois où on a échangé la première fois, vous m'aviez dit quelque chose que je trouvais. Enfin, je pense que vous étiez. C'était à deux doigts de sortir là. Je l'attendais. C'était l'état d'esprit d'un comptable qui a envie de briller aux yeux de son dirigeant. Et j'ai trouvé ça. C'est hyper symptomatique. Le fait que ça sorte, c'est que un, c'est pas rare. Et deux, encore une fois, ces fonctions support un peu sanctuarisées et pas toujours valorisées, qui sont les services financiers et les services comptables, peuvent avoir envie de saisir toutes les opportunités pour faire progresser leur carrière et briller, comme vous disiez, aux yeux de leurs dirigeants. Et ça, c'est une fragilité en soi.
Oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est de l'humain, c'est de la psychologie.
Donc, il faut pas la négliger.
C'est pas quelque chose de palpable, quoi. Parfois, on peut ne pas s'en rendre compte.
Ouais, complètement.
Enfin, bref, c'est un autre sujet encore, peut-être.
Oui, on rentre pas dans un sujet de management, même si on n'est pas loin, quoi. Donc c'est deux exemples que je trouve très pertinents et encore une fois, l'humain a encore prévalu dans cette histoire.
Juste pour terminer, nous on a attiré aussi beaucoup l'attention des personnes aussi. Ça c'est vraiment la tarte à la crème, c'est tous les virements qui partent vers l'étranger. De toute façon d'être extrêmement méfiant, même si on n'était pas sur un coup de téléphone ou quelque chose comme ça, mais à partir du moment où on faisait un virement qui partait vers l'étranger, donc chez Etika, c'était pas limité. Là où je suis actuellement, on a empêché, enfin on a limité les avenants
bloqués,
pour ceux qui savent, on a empêché ces paiements vers l'étranger. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit allumer
Comment les gens sont habitués à identifier que tel RIB, c'est un RIB qui n'est pas français?
Oui, quand même, ouais. Le fameux BIC.
Ouais,
okay.
Ouais, il y a le BIC et puis même les deux premiers caractères de l'IBAN qui disent que si c'est pas FR, c'est pas français, tout simplement.
Oui. Oui, ça, je pense que c'est...
Donc, c'est intéressant de bloquer... Quand on a une activité qui n'a rien à voir avec l'étranger, effectivement, de faire des blocages et en tout cas de marteler ce message-là auprès des équipes, ça aussi, ça fait partie de la sensibilisation et des signaux qu'il faut savoir identifier rapidement. Après, c'est là encore pas toujours facile à transposer dans la mesure où on peut avoir des activités qui travaillent beaucoup à l'étranger. Et ben là, c'est un critère qui est juste pas possible d'utiliser parce que c'est le cœur de l'activité de l'entreprise. Donc voilà, encore une fois, chaque signal doit être identifié et analysé en fonction de l'activité de l'entreprise et utilisé en conséquence.
Et du jour aussi, pour finir encore, tout à l'heure on en parlait également, un appel un vendredi à 16h, il faut aussi peut-être faire un peu attention parce que on sait très bien que ça peut empêcher de réagir. Ça c'était notamment...
Alors comment vous en parliez avec vos équipes de ça? Alors je trouve ça encore une fois hyper pertinent, hein, ça paraît bête comme chou, mais c'est pas forcément simple. Parce que il est vendredi 16h, j'ai mes gamins à aller chercher chez la nourrice ou à l'école, je suis un peu dans le jus, j'ai mon président qui m'appelle, je me dis ouais, je vais le traiter et puis je passe à autre chose.
Bah, ça fait partie des choses que nous on a retransmis. On était deux à aller à cette formation qu'on a eue il y a pas très longtemps là, avec mon partenaire bancaire. Quand on est rentré, bah ça fait partie des choses qu'on a expliquées. En fait, on a fait un petit slide et puis sur le slide on a mis bah voilà les critères sur lesquels ça peut attirer l'attention. C'est si vous avez un appel de dernière minute comme ça le vendredi, comme par hasard, alors qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas réagir, alors que sur un virement, enfin la banque nous a bien dit derrière ils ont 24 heures pour réagir. Une fois
surtout si c'est à l'étranger en plus.
Si c'est à l'étranger, après c'est terminé, c'est fini. De toute façon, vous pouvez toujours faire toutes les opérations que vous voulez, vous ne récupérerez pas votre argent.
On est obligé d'être actif. Donc le vendredi, on ne peut pas. Ouais.
Bah, en tout cas, ça doit encore plus alerter et être, s'il y a le moindre doute,
vaut mieux différer, à la limite, voilà, vaut mieux mettre les gens à l'aise sur le fait que si vous ne traitez pas une opération tout de suite, il vaut mieux ne pas la traiter et la traiter bien que la traiter dans l'urgence à un moment qui ne nous permettra pas de nous retourner et du coup de mettre la société en difficulté, quoi.
Voilà.
Mais c'est un critère qui est hyper important aussi. Effectivement, l'étranger et l'heure et le jour auquel on... Alors, ça peut être aussi des veilles de jours fériés, ça peut être... Là, on parle du vendredi, mais toutes les situations qui ne permettront pas de réagir rapidement.
Tout à fait.
Super. Bah écoutez, merci beaucoup, Céline, pour ces éclairages, vos conseils et la description précise de la manière dont vous aviez anticipé les choses, autant dans les outils que dans les êtres humains. C'était, je pense, des conseils précieux pour les personnes qui nous écoutent.
Et ben, avec plaisir, Denis. Bon courage à vous.
Merci, à très bientôt. Et à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée ou week-end ou vacances. Ça dépend à l'heure à laquelle vous et au moment auquel vous nous écoutez. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie. Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Pour faire connaître la fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance. Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas, je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie.